Daniel chapitre 6, versets 1 à 28.
Darius se décida de créer 120 postes de satrape afin de placer dans tout l'empire des hommes qui représentent son autorité. Il nomma également trois surintendants à qui les satrapes devaient rendre compte de leur administration, de telle manière que personne ne puisse nuire aux intérêts de l'empereur. Daniel était l'un des surintendants, il surpassait les deux autres et tous les satrapes par ses capacités exceptionnelles, si bien que l'empereur avait l'intention de lui confier une responsabilité relative à l'empire tout entier. Alors les autres surintendants et les satrapes se mirent à chercher si Daniel avait commis des erreurs au préjudice de l'empire. Mais ils ne purent trouver aucune faute ni aucun manquement, car il était parfaitement honnête. Il n'y avait vraiment rien à lui reprocher. Ces hommes se dirent donc, « Nous n'aurons aucun motif pour accuser Daniel, à moins de trouver quelque chose en relation avec la loi de son Dieu. » Sans tarder, les deux surintendants et les satrapes se rendirent chez l'empereur et lui dirent, « Longue vie à toi, empereur Darius. Les surintendants de l'empire, les préfets, les satrapes, les ministres et les gouverneurs ont tenu conseil et te proposent de promulguer et publier un décret impérial de la teneur suivante. Durant une période de 30 jours, tout homme qui adressera une prière à un dieu ou un être humain autre que toi-même, majesté, devra être jeté dans la fosse aux lions. Majesté, promulgue donc ce décret et signe-le, de telle sorte qu'il ne puisse pas être modifié, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. » Là-dessus, l'empereur Darius signa le décret. Lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Ses adversaires arrivèrent en hâte et le trouvèrent en train de prier et d'implorer son Dieu. Ils se rendirent donc chez l'empereur et lui dirent, « Majesté, n'as-tu pas signé un décret prévoyant que durant une période de 30 jours, tout homme qui adressera une prière à un dieu ou à un être humain autre que toi-même devrait être jeté dans la fosse aux lions? » C'est effectivement la décision qui a été prise, répondit l'empereur, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. « Eh bien, Majesté, reprit ces hommes, Daniel, l'un des déportés du pays de Juda, n'a pas respecté ou n'a pas de respect ni pour toi ni pour le décret que tu as signé. Trois fois par jour, il prit son Dieu. » Lorsque l'empereur entendit ces paroles, il en fut profondément chagriné. Et il se mit en tête d'épargner Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il cherchait un moyen de le sauver. Mais les adversaires de Daniel revinrent sans tarder et dirent à l'empereur, « Majesté, tu sais bien que selon la loi des Mèdes et des Perses, un décret ou un règlement promulgué par l'empereur ne peut pas être modifié. » Alors, sur un ordre de l'empereur, on amena Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Que Dieu bénisse jusqu'ici sa parole. Prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment nous en remettre à toi ce matin. Que ton esprit puisse parler au cœur de chacun dans ce lieu. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur, et nous savons que tu réponds à nos besoins, que ce soit spirituel, matériel ou physique. Seigneur, nous savons que tu ne nous déçois jamais et que, Seigneur, tu répondras à nos prières. Bénis cette parole, Seigneur, et que nous puissions aussi ouvrir nos cœurs afin que cette parole puisse pénétrer et faire l'effet qu'elle devrait produire, c'est-à-dire te voir encore davantage ce que tu es, un Dieu merveilleux, un Dieu qui a des capacités illimitées, un Dieu qui peut accomplir l'impossible, non seulement, Seigneur, dans nos actions, dans notre travail, mais surtout dans notre cœur. Bénis ta parole ce matin. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, ils sont connus comme les 40 martyrs de Sébaste. Dans la fameuse 12e légion de l'armée impériale de Rome, il y avait 40 soldats qui professaient leur foi en Jésus-Christ. Un jour, leur capitaine les informa que l'empereur Licinius avait envoyé un édit ordonnant à tous les soldats d'offrir un sacrifice aux dieux païens. Ces guerriers chrétiens ont répondu, « Vous pouvez avoir notre armure et même notre corps, mais l'allégeance de notre cœur appartient à Jésus-Christ. » En raison de leur position, ils ont été amenés sur un lac gelé au milieu de l'hiver de l'année 320 et dépouillés de leurs vêtements. À tout moment, ils pouvaient renoncer à Christ et être épargnés de la mort. Au lieu de cela, ils se sont rapprochés ensemble et ont chanté leur cantique de victoire, « 40 martyrs pour le Christ ». Cette nuit-là, par un froid glacial, 39 hommes sont tombés dans leur tombe glacée. Le seul homme qui était encore vivant, s'est dirigé vers le rivage et a renoncé à Christ. Pendant que ces hommes chantaient, l'officier qui entendait les paroles de ces cantiques, l'officier chargé de garder ces hommes avait écouté leur chant et il s'était secrètement mis à croire en Christ. Lorsqu'il a vu l'homme qui avait renoncé à Jésus poser le pied sur le rivage, il a immédiatement décidé de prendre sa place et il s'est dirigé près du groupe. Il s'est déshabillé et a confessé sa foi en Christ. Au lever du soleil, les soldats romains trouvaient 40 hommes qui avaient donné leur vie, tous pour la cause du Christ. Ces 40 hommes courageux ont démontré que leur foi était solidement ancrée en Jésus-Christ. Le message de l'Évangile contient trois choses, la mort de Jésus, sa résurrection et sa venue. Et pour mourir de cette façon-là, non seulement on devait croire, avoir la certitude dans notre cœur que Jésus était mort pour nos péchés, que nous étions pardonnés, réconciliés avec Dieu, mais que Jésus avait aussi vaincu la mort, et que de la même manière qu'il avait vaincu la mort, eh bien Dieu nous promettait de nous ramener de la mort à la vie aussi au jour du jugement dernier. Frères et sœurs, 40 hommes, est-ce que nous serions prêts finalement à être aussi déshonorés qu'elles l'ont été ces 40 hommes, puisqu'ils ont dû se déshabiller complètement nus, mourir sur la glace, renoncer à tout pour la cause de Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes dans la Bible qui ont démontré la même foi que ces hommes. Nous n'avons qu'à penser à Abraham, Joseph, Moïse, Ruth, David, Samuel, Nathan, Élie, Esther, Esdras, Néhémie, Ésaïe, Zorobabel, Jérémie, Malachie et beaucoup d'autres. Ces hommes et ces femmes se tiennent comme des montagnes surplombant le plat pays de l'incrédulité, de compromis et d'idolâtrie. Mais pour nous montrer comment survivre et prospérer dans un monde qui vit sans Dieu, il n'y a pas de meilleur exemple dans la Bible que celui de Daniel. Il a passé toute sa vie à servir Dieu dans un pays païen, sous des rois païens, dans une culture totalement païenne, sans jamais faire une seule fois un compromis concernant sa foi. Daniel devait être quelqu'un de bien parce qu'il n'a jamais choisi le type d'ennemi à affronter. Les gens qui le détestaient n'étaient pas des amis de Dieu. Au contraire, ils détestaient Dieu. Ils se sont attaqués à sa foi parce qu'ils n'ont pas pu trouver aucune faute en lui et ils n'avaient pas de réponse à donner concernant ce en quoi ils croyaient. Et avant de commencer de plonger nos regards dans le texte de ce matin, dans le 6e chapitre, j'aimerais appeler deux faits. Daniel est maintenant, au chapitre 6, Daniel est maintenant rendu un vieil homme. Il est venu à Babylone alors qu'il était tout jeune adolescent. Il a passé toute sa vie à servir différents rois païens. Et au chapitre 6, les commentateurs calculent qu'il était âgé entre 80 et 90 ans. Il sert maintenant sous le nouveau roi Darius, qui gouverne un nouveau royaume, l'Empire Médo-Perse. Les noms des dirigeants ont changé, mais le défi reste le même pour Daniel. Demeurera-t-il fidèle face à la pression? Ce que nous pouvons apprendre de Daniel, c'est qu'une foi inébranlable en Dieu nous permettra de persévérer jusqu'à la fin. Chers amis, nous sommes appelés à courir une course remplie d'obstacles que le Seigneur a préparés pour chacun de nous. S'il est vrai que nous devons tenir compte sur la façon dont nous devons commencer la course et sur la façon dont nous devons la terminer, ce à quoi Dieu s'intéresse, c'est la façon dont nous courons cette course. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle de nous débarrasser de tout ce qui gêne notre marche et du péché qui s'accroche si facilement à nous et de courir résolument la course qui nous est proposée. Il nous invite à garder nos yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement jusqu'à la fin. Garder nos yeux fixés sur Jésus, c'est garder nos yeux, nous rappeler constamment ce qu'il a accompli pour nous sur la croix, garder constamment qu'il a vaincu la mort, vaincu le monde, vaincu la puissance que le monde exerçait sur nous, vaincu la puissance que le péché exerçait sur nous, et de garder nos yeux finalement sur son retour. Il est ressuscité. Gloire à Dieu, non? Christ est ressuscité! Ah, on va le répéter. Vous avez compris, ceux qui viennent depuis quelques années à l'Église. Hein? Christ est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. J'espère que c'est votre espérance aujourd'hui. Ne regardons pas notre vieille carcasse qui rouille tranquillement, qui se décompose, mais pensons à ce nouveau corps que nous aurons, ce corps glorifié. Paul, dans 1 Corinthiens, nous dit que ce sera le même corps que celui que Jésus avait, et un corps qui ne vieillira plus, un corps qui est éternel, un corps qui est immortel, et nous pourrons à ce moment-là regarder Dieu face à face. Et nous pourrons régner sur cette nouvelle terre qu'un jour il va recréer. Alors, on fait des marches pour le climat dans ce temps-ci. Et je dois vous dire que sur la nouvelle terre, le climat, il va être parfait. Parfait. Plus de pollution, plus de maladies, plus de morts. Le climat, il va être parfait. Quand on se lèvera tous debout, ce ne sera pas pour contester, pour qu'on fasse attention au climat. Quand on tous on va se lever debout, ce sera pour louer et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Daniel demeure un modèle pour nous quant à la manière de courir et terminer cette course par sa persévérance et par sa foi qui était solidement ancrée sur la parole de Dieu. Au début du chapitre, Daniel est à nouveau sur le point d'être promu à de hautes fonctions. Nous avons lu. Il est évident que Darius reconnaissait en lui un homme intègre et souhaitait faire de lui l'un des trois surintendants sur tout le royaume. Il surpassait les deux autres et tous les satrapes par ses capacités exceptionnelles. Si bien que le roi avait l'intention de lui confier une responsabilité relative à l'Empire tout entier, c'est-à-dire un peu semblable à ce que Joseph a vécu à l'époque de l'Égypte. C'est à ce moment que les choses vont commencer à se compliquer pour Daniel. Versets 4 et 5. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent l'occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, le texte biblique nous dit, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes lui dirent, nous trouvons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour le coincer? Ils savaient que Daniel, c'était un homme de prière. Il se mettait à genoux trois fois par jour pour prier son Dieu. Ils vont faire promulguer une loi pour dire à l'empereur, écoute, Darius devrait décréter une loi pendant 30 jours qui obligerait tous les hommes à te prier toi seulement et personne d'autre, aucun homme, aucun autre Dieu. Et il savait que c'est là-dessus qu'il coincerait Daniel. Daniel a entendu lui aussi. Et ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si je vais le dire un peu plus loin, la première chose que Daniel a fait, face à cette terrible menace, il est parti, il est rentré dans sa chambre, il s'est mis à genoux et a prié son Dieu. C'est une bonne leçon aussi pour nous ce matin. Quand ça va mal dans nos vies, quand on est menacé par quoi que ce soit dans nos vies, quel est le premier réflexe? Quel est notre premier réflexe? Est-ce qu'on est complètement abattu? Est-ce qu'on commence à se confier à un et à l'autre? Est-ce qu'on commence à envoyer des mails un peu partout pour trouver la solution, plutôt que de se présenter devant le Seigneur? Et puis, Seigneur, je suis ton enfant. Tu connais mes ennemis. Seigneur, tu sais ce que je vis. Je te fais confiance. Ça devait être sûrement la prière à peu près, la dernière, correspond probablement à la prière que Daniel a faite. Daniel est une bonne référence pour nous parce qu'il vivait dans un monde laïque, il vivait dans un monde séculier où on avait abandonné Dieu, on avait chassé, sorti Dieu de la société. Et Daniel est un modèle de foi pour nous. Souvent, on présente Jésus-Christ comme étant notre modèle parfait et souvent les gens regardent à Jésus-Christ et disent « Ouais, mais moi, je suis pas Jésus. Hein. Moi, je suis pas Jésus, j'y arriverai jamais. » Mais le Seigneur, connaissant notre pauvre nature humaine, bien, nous a laissé des hommes qui sont dignes finalement de devenir nos modèles à travers Daniel, à travers Joseph, à travers l'apôtre Paul, à travers les apôtres. Dieu nous a donné des modèles qui nous montrent finalement que quand on a nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus, quand on a décidé d'obéir à sa parole, on est capable de ressembler à la personne de Jésus-Christ et on est capable d'arriver à ce à quoi Dieu nous réserve pour chacun d'entre nous. Pardon. Voici ce que ses ennemis ont découvert en examinant sa vie. Il remplissait fidèlement ses fonctions. On n'avait rien à lui reprocher dans sa conduite et il priait trois fois par jour. Ce sont trois marques de piété que même les non-croyants pouvaient voir chez lui, frères et sœurs. Les personnes qui vous regardent peuvent dire si vous travaillez fort et quel genre de personne vous êtes. S'ils vous observent suffisamment longtemps, ils sauront si vous êtes ou non une personne de prière. Tout ce qui se trouve dans votre cœur sortira tôt ou tard et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur finiront par découvrir la vérité à votre sujet. Dans le cas de Daniel, même ses ennemis devaient admettre qu'il n'avait aucune faiblesse flagrante et qu'il n'avait rien à lui reprocher. Tout avait changé autour de lui, mais Daniel n'avait jamais changé. La société avait évolué, mais Daniel, la seule évolution que Daniel avait vue dans sa vie, c'était sa relation avec son Dieu. Il était demeuré le même tout au long de sa vie. Il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Et les ennemis de Daniel l'enviaient, mais il ne pouvait nier la réalité de sa foi. Les satrapes vont élaborer un plan ingénieux pour le piéger. Ils vont convaincre, ah ben là, je ne le dirai pas, c'est ce que j'ai dit il y a cinq minutes. Alors, le roi va accepter cette idée de promulguer une loi. Pourquoi? Parce que le roi, c'est un païen. Et le roi, il aimait que les gens le prient. Il aimait que les gens l'adorent. Et la tentation, elle était grande pour lui de promulguer cette loi, de dire, écoute, c'est pas à vie, c'est pour 30 jours. Et il va tomber dans le panneau, il va promulguer cette loi. Les satrapes savaient que Daniel désobéirait à la loi. C'est-à-dire qu'il continuait à prier trois fois par jour comme il l'a toujours fait. Les satrapes savaient qu'ils demeureraient fidèlement à Dieu à cause de sa foi inébranlable à son Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit que tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. J'ai dit l'Épître aux Hébreux, excusez, dans Paul, dans Timothée. Ce verset se réalise dans la vie de tous ceux qui vivent comme Jésus le demande. Si vous choisissez de vivre pour Dieu en refusant de faire des compromis dans le monde, vous serez persécutés et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Remarquez ce qu'il accomplit lorsque la foi est mise à l'épreuve. Daniel, verset 3, on nous partage qu'il est un homme spirituellement mature. À travers les épreuves, Dieu voulait le faire progresser davantage dans sa foi. Un des premiers buts des épreuves que Dieu permet dans votre vie, frères et sœurs, c'est de vous faire progresser dans votre foi. Parce qu'il ne perd jamais de vue que son but, c'est de nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Et il sait très bien que quand on a de l'argent, quand on a une maison, quand on a un travail, quand on a de la santé, quand tout va bien, on n'en a rien à cirer de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, mon fils, je suis censé être le premier dans ta vie. Et là, il y a ta maison, il y a ta voiture, il y a tes enfants, il y a ton travail, il y a ci, il y a ça. Ben, je vais essayer de rééquilibrer les choses. Je vais te rappeler que ton père, il t'aime. Et je vais te rappeler que je me préoccupe de ton bien-être, non seulement matériel, mais aussi de ton bien-être spirituel. Et je vais te rappeler aussi que mon but premier, c'est de t'amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ, parce que je veux manifester ma gloire à travers toi. Ça, c'est quelque chose, j'ai de la difficulté à comprendre, qu'à travers des gens comme nous, sauvés par grâce, Dieu puisse vouloir manifester sa gloire à travers nous. Que Dieu puisse accepter de jouer sa réputation sur nous. Parce qu'avant de dire qu'on est chrétien, il faut quand même regarder si on ressemble à un chrétien. Et Dieu joue sa réputation à travers ses enfants. Quand on professe le nom de Jésus, est-ce que notre conduite démontre finalement le caractère de Christ? Frères et sœurs, nos épreuves ne sont jamais destinées à nous détruire, mais à nous faire grandir. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Dieu sait bien quel projet il fait pour vous, et ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. À travers cette épreuve vécue par Daniel, les versets 25-28 qu'on n'a pas lus, Dieu reçoit la gloire et l'honneur qui lui sont dus. Lorsque nous traversons des épreuves, que nous restons fidèles à Dieu, malgré celles-ci, Dieu reçoit l'honneur qui lui est dû à cause de la foi de ses enfants. 1 Corinthiens 10, 31, « Peu importe ce que nous faisons, l'apôtre Paul nous encourage à faire tout pour la gloire de Dieu. » Et ça, je trouve que c'est très lourd, ça. C'est très lourd, c'est quand même une exigence incroyable. Hein? Mais si Dieu nous le demande, c'est parce qu'on est capable d'y arriver en Jésus-Christ. Pas par nos propres forces, mais en Jésus-Christ. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, le soir, je me couche, je me dis, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment tout fait pour la gloire de ton nom aujourd'hui? Et là, il y a des choses que le Saint-Esprit me met en lumière, que je confesse. Je confesse à Dieu que dans tel domaine, j'ai manqué. Qu'à telle occasion, j'aurais pu parler de lui, je ne l'ai pas fait. Et ainsi de suite. Nous n'avons qu'à penser à Shadrach, Meshach et Abednego, à David, à Goliath, à Étienne et à Paul. Des hommes qui ont cherché à tout faire pour la gloire de Dieu. Versets 4 et 5, ces hommes ont été confrontés à la foi de Daniel. Ils savaient qu'ils possédaient quelque chose qu'ils n'avaient pas. Lorsque les gens regardent un croyant se promener dans la fosse aux lions, ils peuvent voir la foi à l'œuvre et cela touche vraiment leur cœur. Car les chrétiens sont des évangiles vivants pour que tout le monde peut connaître et lire. Frères et sœurs, ne pensez pas un seul instant que le monde ne voit pas la paix que vous avez en Christ. Ce que vous faites pour le Seigneur et le soutien que vous recevez de Dieu. Vous êtes différents et les gens le voient. Parfois, le témoignage de la foi de celui qui traverse une épreuve est plus parlant que le témoignage qu'on rend de notre bouche. Daniel, dans les versets 10 et 11, Daniel ne va pas changer ses habitudes pour apaiser finalement le roi. Il va rester cohérent malgré les menaces, le danger et malgré la pression pour le forcer à se conformer à des lois qui vont à l'encontre des lois de Dieu. Que le Seigneur fasse émerger des chrétiens qui se tiendront debout pour le Seigneur, et qui seront fidèles et cohérents avec leur foi, malgré tout ce qu'ils sont appelés à affronter dans leur vie. Car nous savons du reste que le travail que nous réalisons dans l'union avec le Seigneur n'est pas inutile. Nous savons que si nous remettons notre sort entre les mains du Seigneur, il nous soutiendra, car il ne laisse jamais chanceler le juste, il ne laisse jamais chanceler celui qui marche dans ses voies. Versets 14 à 20, je fais un résumé cette semaine, on va rentrer dans les détails parce qu'il y a l'Assemblée générale après, donc... Pour la première fois à 18 ans, je vais essayer de vous laisser partir très tôt. Mais, alors, je vais simplement regarder les 3-4 premiers versets, faire un bref, vous donner un aperçu de ce qu'on verra dans les semaines suivantes, parce que le chapitre 6, c'est vraiment quelque chose de magnifique pour, en tout cas pour notre foi chrétienne à nous, dans le monde dans lequel on vit. Il y a de très, très grands enseignements dans le chapitre 6. Verset 14 à 20, alors la foi de Daniel, on verra qu'elle avait eu un impact sur le roi au point qu'il croyait que seul son Dieu qu'il servait avec tant de persévérance pouvait le sauver. Et le roi va réaliser qu'on lui a tendu un piège. Mais ce qui est extraordinaire, hein, je vous ai parlé tantôt du parallèle entre Joseph, le pharaon, et Daniel et le roi Darius. Darius, un roi païen, dit « Seul ton Dieu ». Que tu sers avec tant de persévérance, pouvait le sauver. Et je dois vous dire honnêtement quelque chose, Darius, il est tout près du Seigneur Jésus-Christ. Darius, il est tout près de changer vers quel Dieu dorénavant il va adorer. Quand un non-chrétien est capable de dire que le Dieu que tu sers avec tant de persévérance, c'est le seul qui peut te sauver, eh bien, frères et sœurs, il est en train de frapper à la porte du ciel. Il est en train de frapper à la porte de ce Dieu bienveillant. Lorsque quelqu'un démontre au quotidien qu'il a une foi en un Dieu tout-puissant, en un Dieu qui peut réaliser l'impossible, cette foi a le pouvoir de susciter chez les gens qui nous connaissent à rechercher le Seigneur pour eux-mêmes. Frères et sœurs, les gens n'ont pas besoin d'entendre prêcher l'Évangile pour venir, uniquement de prêcher l'Évangile pour venir à Jésus-Christ. Ils ont besoin de voir à travers vous, à travers moi, qui se proclamons enfants de Dieu, les Évangiles vivants. Les pharisiens connaissaient la Bible, ils connaissaient la loi par cœur. Et Jésus les a traités de sépulcres blanchis. Il les a traités d'hypocrites. Il y a eu des mots durs pour les pharisiens. Vous ne savez même pas comment être sauvé. Comment pouvez-vous aider les autres à être sauvés? C'est un peu, hein, je brosse en français courant, mais c'est à peu près ça. Il les a traités d'aveugles. Il les a traités de race de vipères. C'est dur à encaisser, ça, d'entendre. Moi, quelqu'un qui me traiterait de vipère ou de serpent, ça, j'y demanderais sûrement pourquoi. Mais les gens ont besoin de voir l'Évangile qui transpire à travers chacun de nous. De voir qu'on vit cet Évangile. De voir que quand quelqu'un nous fait du mal, on est capable de lui pardonner. De voir qu'on est capable d'aimer nos ennemis. Qui est un des signes, des premiers signes de la nouvelle naissance, d'ailleurs. Être capable d'aimer nos ennemis, d'être capable de pardonner comme Dieu nous a pardonné. C'est un deuxième signe. Il y en a un troisième, mais malheureusement, je ne l'ai pas écrit. Je l'ai oublié. Mais les gens ont besoin de voir qu'on est différent. On n'essaye pas de les attraper pour les sortir d'une religion, les sortir d'une philosophie, pour une sortie du monde. On n'essaye pas de les piéger pour les faire entrer dans d'autres choses. On fait simplement leur montrer que dans ce monde dans lequel on vit, il n'y a aucune espèce d'espérance. Mais que dans le monde que celui que Christ nous présente, c'est un autre royaume. Et cette espérance, elle est éternelle. On fait des enterrements souvent. Et je le dis presque à tous les enterrements, la personne qui est dans son cercueil, elle n'est plus là. Parce qu'on a un corps, une âme et un esprit. L'esprit est déjà rendu devant son Créateur. Ce qui est là, c'est simplement l'enveloppe qui cache, qui revêt l'âme de la personne, qui revêt l'esprit de la personne. Mais elle est au ciel, et cet esprit, nous le savons, nous l'avons dit lors de la Sainte-Cène, un jour, cet esprit retrouvera un nouveau corps incorruptible, immortel. Et gloire à Dieu pour cela. Et ça, Dieu veut que tout le monde reçoive ce corps à la fin des temps. Les uns, c'est pour aller dans la présence de Dieu. Tout le monde va ressusciter. Les uns pour aller dans la présence de Dieu. Les autres pour être privés de la présence de Dieu et du paradis qu'il accorde à tout le monde. On est Dieu extraordinaire. Et comme Charles l'a dit tantôt, il n'était pas obligé de venir. Il n'était pas obligé de venir. Il n'était pas obligé de mourir pour vous et pour moi. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Et je pense que Jésus, on en a parlé à la réunion de prière, c'est mercredi. Quand vous lisez dans Jean chapitre 17, que dans sa prière, Jésus dit à son Père que Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus, moi, je pense que c'est capable de saisir cette vérité pour moi. Comment Dieu peut-il m'aimer autant que Jésus? Comment Dieu peut-il m'aimer avec mon ancienne vie de péché? Et me dire qu'il m'aime autant que Jésus qui n'a jamais péché. Humainement parlant, je ne suis pas encore arrivé à saisir. C'est une dimension de l'amour de Dieu qui nous échappe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à Dieu pour pardonner les péchés. Peu importe le péché qu'on a commis, peu importe aussi grave soit-il, Il n'y a pas de rien qui peut empêcher Dieu de pardonner à quelqu'un. Et combien de fois dans des campagnes d'évangélisation, on voit des gens qui hésitent à s'avancer ou qui s'avancent, qui sont en larmes. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à te raconter sa vie puis ils disent, moi je vais accepter le Seigneur, mais avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne pense pas que Dieu va me recevoir. Et alors on lui dit, bien écoute, il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Aucun péché. Dites amen à ça. Vous avez la conviction que Dieu ne... Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Amen. Lorsque celui qui confesse avoir reçu le Seigneur Jésus met en pratique sa foi, cela encourage les autres à continuer à persévérer dans leur propre foi. On a un exemple dans la Bible, dans Actes chapitre 28, verset 15. Lorsque les frères ont appris que Paul venait d'arriver à Rome, ils sont venus le rencontrer. Et dès que Paul les vit, il remercia Dieu. Le texte nous dit, il remercia Dieu et prit courage. On a besoin de se fréquenter, on a besoin de se contacter, on a besoin de se parler. Dans l'Église, je vous regarde le visage un matin, il y a pas de l'air, vous avez de l'air tous beaux. Vous avez de l'air tous riches et tout est beau dans votre vie. Mais c'est en parlant ensemble qu'on s'aperçoit qu'on vit finalement les mêmes problèmes, qu'on vit les mêmes situations. Et dans le Christ, en se basant sur la parole, on est capable de se fortifier ensemble, on est capable de s'encourager ensemble et de pouvoir continuer à faire un bon bout de chemin ensemble. Lorsque les frères, Daniel, le verset 10, Daniel a gardé le cap sur Dieu, sachant qu'il n'avait personne à plaire à part Dieu. Et quand une personne marche fidèlement avec le Seigneur, malgré les problèmes et les tentations qui l'entourent, elle démontre clairement que Jésus-Christ est au centre de sa vie. Le chrétien qui est ferme dans sa foi n'essaie pas de vivre dans le but de plaire à tout le monde, il ne vit que pour plaire à Dieu. Sa principale préoccupation, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, les voies de Dieu sont impénétrables. Il a une façon d'agir pour nous faire progresser dans notre foi qui nous surprend toujours. La foi de Daniel lui a permis de remporter la victoire dans cette épreuve et il en sera de même pour nous. Voici comment nous remportons la victoire sur le monde, dit l'apôtre Jean dans sa première épître, par notre foi. Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous entraîne dans le cortège de victoire de Jésus. La foi inébranlable de Daniel en son Dieu lui a permis de vaincre la fosse aux lions, de passer à travers tous les dangers qu'il a dû affronter, de résister à la mentalité du monde, de résister au roi Darius, à ses détracteurs et même à sa propre nature. Sa foi le soutenait à travers les épreuves. Et frères et sœurs, il y en a qui disent, « Oui, mais comment ça se fait que sa foi est plus grande que la mienne? Pourquoi sa foi est plus solide que la mienne? Il n'y a pas de secret. » C'est dans la lecture, la méditation de la parole. C'est là qu'on va puiser nos forces. C'est là que notre foi grandit à travers les exemples, à travers les histoires que des gens ont vécues, des parties de vie que les gens ont vécues. On se dit, « Bien, si Dieu était capable de faire ça pour eux, il va être capable de le faire pour moi. » Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Dieu a fait pour Daniel, il sera capable de le faire pour moi. Ce que Dieu a fait pour David, il sera capable de le faire pour moi. Ce que Dieu a fait pour Moïse, il sera capable de le faire pour moi, dépendant de l'appel qu'il a pour moi. Dieu t'amène à ça. Ouais. Dieu n'a pas changé, hein. Dieu ne vieillit pas. C'est ça qui est extraordinaire pour nous. Dieu ne vieillit pas. Il est éternel. Le temps ne compte pas pour lui. Daniel a appris ce que chaque chrétien peut apprendre. Soit Dieu vous délivrera de votre épreuve, soit il vous accordera la grâce de supporter l'épreuve que vous vivez. Lorsqu'il nous délivre, ne nous délivre pas de l'épreuve, il nous donne la capacité de la supporter. Nous avons, dit Paul, que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos propres forces ou de nos capacités de résistance. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il nous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen de la sortir. La foi peut toujours séparer votre mère en deux comme Moïse. Elle peut faire en sorte que vous ne manquez pas de nourriture comme la veuve de Sarepta. La foi peut vous amener à marcher sur l'eau comme Pierre. La foi peut multiplier vos pains et vos poissons. Le chrétien est toujours assuré de remporter la victoire par la foi, puisque tout est possible à celui qui croit. La foi de Daniel lui a permis de voir les lions perdre leur déjeuner que les ennemis lui réservaient pour voir ses ennemis perdre leur vie. Il a vu chacun de ses adversaires être vaincus un par un. Un jour, les enfants de Dieu verront les ennemis de leur foi disparaître aussi un par un. Lorsque la patience de Dieu sera épuisée, 2 Pierre 3, 7 à 10, le ciel disparaîtra avec un bruit effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu et la terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Chers frères et sœurs, nous savons que le Seigneur ne tarde pas à accomplir ce qu'il a promis, comme certains le pensent, mais qu'il use de patience parce qu'il ne veut pas que qui que ce soit aille à la ruine. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se repentir. De même que nous avons ressemblé à l'homme fait de terre, de même nous ressemblerons un jour à celui qui est au ciel. Voici ce que je veux dire, frères et sœurs, ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas arriver au royaume de Dieu, et ce qui est mortel ne peut pas posséder l'immortalité. Lorsque ce qui est mortel sera revêtu de ce qui est immortel, dit l'apôtre Paul, et que ce qui meurt sera revêtu de ce qui ne peut pas mourir, alors se réalisera cette parole de l'Écriture, « La mort est supprimée, la victoire est complète. » Et j'espère que c'est votre espérance, j'espère que c'est votre assurance. Et je vais rajouter, j'espère que c'est aussi votre certitude. Alors, le diable qui trompait le monde sera jeté dans le lac de feu et de soufre où il sera tourmenté jour et nuit pour l'éternité. Frères et sœurs, tous les ennemis de la croix seront traités un jour comme ils le méritent au moment fixé par Dieu. Que cet exemple de Daniel ce matin et que nous verrons dans les deux prochaines semaines puisse nous rappeler qu'on vit dans un monde qui est sensiblement pareil à Daniel. La notion du péché n'existe plus dans le monde. Les gens adorent le Dieu qu'ils veulent. Et finalement, ben, Dieu créateur, il est nié, il est renié. Et à travers Daniel, eh bien, Daniel nous montre comment résister à toutes ces tentations, comment aussi remporter la victoire sur toutes ces tentations et comment continuer à grandir à travers tout ce que le monde nous offre, comment continuer à grandir dans notre foi, dans notre connaissance de la personne de Jésus. Craig Davidson est un homme persévérant. En 1978, il prit la décision de courir régulièrement. Il n'a jamais raté depuis. En mai 1997, c'est-à-dire 19 ans plus tard, un journaliste écrivait un article sur lui. Il souligna que Craig Davidson, alors âgé de 43 ans, avait calculé qu'il avait parcouru 194 000 km, près de 5 fois le tour du monde, depuis qu'il avait commencé à courir. Son régime de course à pied est un exemple de persévérance en soi. Mais ce qu'il a fait en parcourant tous ces kilomètres est une leçon tout aussi impressionnante pour nous en matière de persévérance. En courant, Davidson gardait les yeux fixés sur le sol et en cherchant du regard s'il ne trouverait pas une petite monnaie ou verrait pas une petite monnaie jetée ou échappée par les gens. Et cette vigilance, elle lui a porté des fruits. Il raconte qu'au fil des années, il a ramassé 5170 euros. Toutes ces pièces de monnaie ramassées sur le sol à travers ces différentes courses lui ont permis en 1991 de se payer une seconde lune de miel à Hawaï. Frères et sœurs, cela vaut la peine de persévérer. Mais voilà, il nous arrive de négliger de persévérer, parce que les dividendes que nous espérons récolter tardent à arriver au moment où nous le souhaitons. Nous aimerions tous trouver 5170 euros, mais sommes-nous prêts à parcourir 190 000 km pour l'obtenir? Qu'il s'agisse de finances, de relations importantes, de maturité spirituelle ou de forme physique, la persévérance est la meilleure voie à suivre lorsque vous avez une foi inébranlable, lorsque vous croyez, ou en ce que vous croyez. Le Seigneur aspire à voir des gens prendre position comme Daniel à notre époque. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes de foi qui ont décidé de persévérer et demeurer fidèles malgré la pression. Êtes-vous un chrétien qui fait partie de ceux qui persévèrent lorsque vous traversez des moments difficiles? Vivez-vous chaque jour pour la gloire de Dieu? Dieu veut juste augmenter la mesure de notre foi afin que nous persévérions à courir la course qu'il a préparée pour nous ici-bas. Voilà pourquoi il nous teste. En permettant que nous vivions différentes épreuves tout au long de nos vies. Il veut juste que nous marchions dans l'obéissance minute après minute et jour après jour. Est-ce que cela vous décrit ce matin? Est-ce que cela me décrit ce matin? Sinon, nous pouvons, comme Daniel, trouver de l'aide en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, en terminant, vous pouvez continuer à courir la course que Dieu vous propose et vous rendre jusqu'au bout de la course, c'est-à-dire persévérer dans la foi, en vous rappelant que le prix de la victoire qui vous attend, et c'est ça qui est important, le prix de la victoire, la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, vous donnera au jour du jugement. Dieu vous rendra capable de tenir jusqu'au bout, tout comme il l'a fait avec Daniel. Et vous pouvez être certain qu'il le fera, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Afin que vous puissiez témoigner combien il a toujours été fidèle, qu'il a toujours été à vos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Rappelez-vous que les épreuves que vous traversez sont un moyen que Dieu utilise pour vous faire grandir dans votre foi. Vous faire affermir celle-ci et la rendre inébranlable afin que vous puissiez persévérer jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, on a un modèle sur qui on peut imiter aussi, c'est la personne de Jésus-Christ. Il a supporté toutes sortes d'épreuves pendant qu'il est venu sur la terre et il a accepté de supporter l'épreuve ultime, de prendre sur lui votre péché, mon péché, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés pour quiconque le veut bien et être réconcilié avec Dieu. C'est une épreuve qu'il a dû travailler dans sa nature humaine. Mais par amour pour nous, il a accepté de monter sur cette croix. Il a accepté d'être maudit pour nous afin que nous recevions la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, lui qui était sans péché, eh bien, le Christ qui était sans péché est devenu péché pour nous, afin qu'à travers lui, nous puissions bénéficier de l'œuvre par laquelle Dieu nous rend juste à ses yeux. Et l'œuvre par laquelle Dieu nous rend juste à ses yeux, ce n'est pas les œuvres qu'on fait, c'est les œuvres que Christ a accomplies, la seule œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Que Dieu vous bénisse à travers ce message ce matin. Que Dieu ait pu, si Dieu vous a parlé ce matin à travers ce message, eh bien, qu'il puisse vous fortifier. Si vous avez des choses à changer, à modifier, que Dieu vous donne la force de pouvoir le faire. Mais ce que Dieu veut à travers vous tous ici ce matin, sans exception, c'est qu'il veut manifester sa gloire, c'est-à-dire montrer qu'il est présent, qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il va encore accomplir les miracles dans la vie de quiconque le veut bien, en les amenant à la personne de Jésus-Christ. Amen.